Dans votre quartier, vous rencontrez des enfants de visage à visage. très bien influencé le nom de Dieu, hein, parce que la prière commence par Allah, donc le nom de Dieu, on peut le prononcer. Maintenant, sur les représentations de Dieu, effectivement, il n'y en a pas, elles sont proscrites. Et donc, effectivement, une des différences théologiques majeures, c'est que dans le christianisme, il y a cette idée d'une rencontre qui va très loin avec Dieu, puisque dans l'évangile selon saint Jean, Jésus dit qui me voit, voit le Père, donc il y a le mystère de l'incarnation, et en fait, il dit tout ce que mon Père a voulu me faire connaître, je vous l'ai fait connaître. Donc Dieu se révèle et se livre totalement, et donc il y a cette idée cette vérité, cette expérience, parce qu'il y a des mystiques chrétiens, cette idée d'union avec Dieu. Alors, dans les courants mystiques de l'islam, comme le soufisme, il y a un certain nombre de maîtres spirituels qui vont un peu dans cette direction. Par exemple, pour l'islam wahhabite, donc saoudien, qui est un islam, c'est difficile en 2000 de le caractériser, mais disons, cet islam-là considère que ce soufisme-là s'écarte de la tradition. Donc effectivement, il y a quand même une forte prégnance théologique de la transcendance de Dieu comme Dieu là-haut et la créature en bas. Donc il y a quand même le Coran qui constitue un lien. Il y a quand même cette relation à Dieu puisque les croyants adorent Dieu. Mais c'est vrai qu'elle est de nature différente de. Le Christ dit, je ne vous appelle pas serviteur, mais ami, dans l'évangile de saint Jean. Donc c'est certainement une différence. Alors, après, je me suis souvent posé la question, la théologie, donc notre représentation de Dieu, certainement, détermine notre anthropologie, c'est-à-dire notre conception de l'homme, notre manière de nous comporter. Dans quelle mesure la représentation de Dieu dans le monde musulman, la représentation de Dieu majoritaire, telle qu'elle est transmise par les oulémas, les responsables religieux, dans quelle mesure elle va informer et finalement façonner une société et des comportements, bon, c'est très difficile à mesurer, mais je note que chez beaucoup d'intellectuels musulmans, surtout ici en Europe, il y a beaucoup de questions là-dessus, c'est-à-dire, ça touche donc cette question en particulier du rapport aux Écritures, puisque le statut théologique des Écritures est très différent en islam, là aussi, des chrétiens. Bon, déjà, la Bible, c'est plusieurs livres. Le Coran, c'est un seul livre. Et puis, donc, il y a la tradition musulmane hyper majoritaire, c'est que ce livre a été dicté. Dicté par Dieu à l'ange Gabriel, alors que dans la tradition chrétienne, même s'il y a eu un certain nombre de difficultés, par exemple dans la période moderne, d'accepter de venir à une lecture qu'on a appelée historico-critique, donc de remettre les genres littéraires, etc., même si ça n'épuise évidemment pas notre rapport avec la Bible, qui doit être lu dans l'Esprit Saint, mais une difficulté d'une approche historico-critique par rapport au Coran, à cause du statut théologique du Coran. Et donc là, on retrouve ce même problème de... c'est quoi le rapport à Dieu? Est-ce que c'est l'ordre relationnel? Ou est-ce que simplement, ben voilà, il y a un certain nombre de codes qui nous sont donnés, il faut arriver à s'y soumettre et les vivre. Alors, en quoi ça va transformer les rapports aux autres? Moi, ce que je note quand même dans le monde musulman, et je constate sur mon quartier, c'est la prégnance très forte de la communauté. Donc il y a quand même une relation, me semble-t-il, très forte entre les croyants d'islam. Alors ça, c'est sur un plan, si vous voulez, horizontal. Donc je pense qu'il faut tenir compte aussi de cet élément-là. Et très souvent, je me suis fait la réflexion, et j'ai eu l'occasion de le dire à certains curés de paroisse, je lui ai dit, vous savez, par exemple, pour l'Aïd, ces échanges de gâteaux, c'est bon, ça crée du lien. J'ai toujours été frappé à Marseille, par exemple, que pour les rameaux, il y a beaucoup de petites gens qui viennent chercher leurs rameaux bénis. Bon, c'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup de superstitions, je ne suis pas dans le cœur des gens, mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un geste quand même matériel, simple, et qui va dans la maison, etc. Et je trouve qu'une certaine forme du génie dans la pratique de l'islam, certaines choses viennent du christianisme, mais pas tout, mais par exemple dans la période du ramadan, si vous voulez, souvent les gens parlent du jeûne, mais la période du ramadan, c'est aussi le repas familial avec les amis le soir. Et donc là, oui, c'est aussi c'est très relationnel. Donc je crois qu'il faut... La question posée est tout à fait intéressante, il y a des éléments à creuser. En même temps, il y a un côté très relationnel, me semble-t-il, dans l'islam, entre les croyants de l'islam. Et dans l'hospitalité aussi vis-à-vis des étrangers, très fort.
Voilà, je voudrais savoir quelle place ont les femmes dans l'islam. Quelle place on leur fait, surtout.
Alors, impossible de répondre pour un milliard de personnes. Mais je m'en tiendrai, si vous voulez, je vais essayer de contraster en tenant à des réalités numériquement relativement faibles, mais je vais essayer de contraster, puisqu'on est à Marseille, la situation de la femme musulmane, des femmes musulmanes ici à Marseille, et puis la situation des femmes en Algérie, par exemple, c'est une heure d'avion, c'est un point que je connais un petit peu longtemps, encore une fois sans prétendre être expert, plutôt à partir à la fois de ma connaissance livresque et puis de ce que je peux observer. Mais bon, par exemple, en Algérie, vous avez un code de la famille qui date de 1984, dans lequel il y a un certain nombre de choses. En particulier, pour vous donner qu'un seul exemple, c'est qu'une femme musulmane, dans cette loi de 1984, n'a pas le droit d'épouser un non-musulman. C'est d'ailleurs une tradition musulmane. Alors que l'inverse n'est pas vrai. Alors, il y a un certain nombre de femmes algériennes qui sont hostiles à cette loi, qui ont été hostiles avant qu'elle ne soit votée, qui militent toujours contre. Donc la femme algérienne, ça dépend si vous êtes acceptif, si vous êtes à Alger, parce qu'à Alger, vous verrez des femmes qui ne sont pas voilées, par exemple, enfin, je prends là des aspects tout à fait extérieurs. Mais par contre, si vous promenez même à Alger dans certains quartiers, moi j'ai pu me promener avec certains de mes amis algériens, c'est vrai que moi ce qui me frappait, si vous voulez, le soir, c'est qu'il n'y avait quasiment pas de femmes dans la rue, dans ces quartiers spécifiques. Par rapport à la rue européenne, c'est très différent. Alors, les femmes issues de l'Algérie vivant en France, elles découvrent que le fonctionnement est différent. Elles ont à la fois à gérer aussi les rapports avec leur mari, avec l'ensemble de la famille. Et j'ai été témoin directement de certaines évolutions intéressantes, si vous voulez, où on voit bien qu'il y a une confrontation entre des modèles sociétaux qui fonctionnent de manière, sinon opposée, en tout cas différente. Exemple, une de mes jeunes voisines, avec qui j'ai pas mal travaillé dans l'accompagnement scolaire, arrive à l'âge de 18 ans et la proposition familiale, c'est qu'elle aille se marier en Algérie, rester en Algérie, et puis elle m'explique, les études c'est fini, femme au foyer, etc. Je veux dire, grande vénération pour les femmes au foyer, parce que ma mère a toujours été femme au foyer, et je n'ai pas la prétention que c'est toujours été des réussites, mais enfin quand même, nous, enfants, on a profité. J'ai aucun mépris pour cette solution. Encore une fois, je trouve qu'il ne faut pas aller trop vite en disant tel modèle est archaïque, etc. Mais ce qui était gênant là, dans son cas, si vous voulez, c'est que c'était vraiment un mariage arrangé et qu'en fait, on ne lui demandait pas son avis. Voilà. Cela dit, il ne faut pas s'imaginer que ça, c'est uniquement spécifique à l'islam. Parce qu'à Marseille, j'ai vécu exactement la même chose avec un jeune voisin homme de Pondichéry, chrétien, qui m'a montré la photo de sa fiancée, lui dit, ah, très belle, vous entendez bien. Ah ben, je ne l'ai jamais rencontré. Et il allait à Pondichéry pour les fiançailles, puis revenait en France pour travailler, et après il revenait pour le mariage, mais sans l'avoir connu. Et voilà, et j'allais ajouter que en France, il n'y a pas si longtemps, ces choses-là se passaient. Donc, mais ce que j'ai trouvé intéressant, si vous voulez, dans ce cas-là, c'est que par rapport à une société traditionnelle, alors est-ce que c'est spécifique à l'islam ou non, il faudra en discuter, mais et est-ce que c'est figé ou pas, parce qu'il y a des législations différentes sur les pays musulmans. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est in fine, donc moi je lui dis, je t'écoute et je suis prêt à t'accompagner dans tes interrogations, mais je ne peux absolument pas prendre la décision à ta place, parce que je n'arrive pas à évaluer d'abord ce que toi tu souhaites, mais je lui ai dit, bah, pose-toi la question dans ton cœur, en conscience, qu'est-ce que toi tu souhaites déjà, comment tu vois les choses, tu peux me le dire, puis après tu vois ce que tu vas décider. Je lui ai dit, je ne supporterai pas les conséquences de ta décision. Et en plus, je ne connais pas exactement ces conséquences. Je ne connais pas suffisamment bien tous les membres de sa famille, ce qui se passait dans ces cas, etc. Bon, bah, c'était assez douloureux, cet échange. Et puis finalement, elle a opté pour dire non. Et en fait, ce qui s'est passé dans la famille, ce qu'elle m'a raconté, c'est qu'elle a plusieurs de ses tantes qui ont dit bah, « Bravo, nous, on a toujours pensé comme toi, on n'a jamais osé le dire. » Et ben, c'est fini, on a ras-le-bol du système. Donc, sa décision a été acceptée par la famille. Et en fait, la famille, dans ce processus, finalement, a changé de fonctionnement. Mais exactement comme ici, en France, on a changé sur rien des temps. Je rappelle souvent, avec un petit peu de malice, que le droit des femmes en France est quand même venu 10 ans après la Turquie. Alors, c'est vrai, la Turquie kémaliste, donc des militaires qui ont imposé la laïcité en Turquie, mais. La France catholique et laïque a mis 10 ans de plus pour donner le droit de vote aux femmes par rapport à la Turquie laïque et musulmane. Voilà. Donc, ce que je crois aussi, bon, moi je suis dans 1961, on m'a toujours expliqué que le mur de Berlin existerait jusqu'à ma mort, que les communistes étaient là pour l'éternité, et bon, on a vu que c'était vite balayé. Donc, je me méfie beaucoup des gens qui s'imaginent que c'est la fin de l'histoire. Donc, mais voilà, enfin, j'essaie de parler de réalité concrète. Je pense qu'il y a des réalités très contrastées à 1 heure d'avion. En même temps, il y a une certaine diversité en Algérie, malgré une législation qui est... Bon, personnellement, je suis très outré par cette loi. Je suis assez féministe, donc je suis assez scandalisé de cette loi de 1940. Mais je ne suis pas algérien, je n'ai pas le droit
au...
Alors après, il y a un certain nombre de dispositions... Pour la répudiation, il y a des droits qui ne sont pas symétriques sur ces questions-là. De même que, si vous voulez, devant les tribunaux algériens encore aujourd'hui, une femme, comme témoin, c'est un demi-homme. Il faut 2 femmes pour 1 homme. Voilà. Bon. Moi, ça me choque. Voilà. Mais il y a beaucoup d'Algériens qui se choquent. Ouais.
J'aimerais juste savoir s'il y a eu des statistiques sur l'attraction des nombres de morts chrétiens par rapport au nombre de morts musulmans, et si on pouvait comparer ça au nombre d'habitants chrétiens au nombre d'habitants total.
Dans quel pays et sur quelle période?
En Algérie, pour les attentats qui ont eu lieu pendant les années 70.
Alors, un pourcentage, je ne donnerai pas, mais grosso modo, les chiffres sur lesquels les observateurs et les historiens sont à peu près d'accord, c'est qu'il y a eu à peu près 150 000 personnes tuées dans des actes qu'on peut qualifier de terroristes dans les années 90 en Algérie. Et là-dessus, la proportion de chrétiens, c'est peanuts, c'est quasiment rien du tout. Massivement, c'est des musulmans tués par des musulmans au nom de l'islam. Voilà. Maintenant, après, il y a eu donc tout un débat en Algérie qui se poursuit, même si mon sentiment, c'est que beaucoup d'Algériens sont vraiment fatigués par tout ça et qui sont un peu résignés. C'était, qui sont derrière ces massacres? Ma position, on me le reproche, je vois certains articles sur Internet, mais ma position, c'est que je ne travaille pas pour la police, et puis c'est pas le cœur de mes centres d'intérêt, mais si on pose la question, par exemple, s'agissant de Tibérine, voilà, il y a plusieurs hypothèses, j'ai aucune preuve à apporter au dossier, je dis simplement, voilà, il y a des personnes qui disent, il y a la version officielle, elle est vraie, c'est le GIA, c'est qui? C'est des islamistes qui ont fait des actions armées, ils ont tué les frères. Et donc, les 19 religieux chrétiens catholiques qui ont été assassinés, puisqu'il n'y a pas eu, en l'occurrence, de protestants évangéliques est assassiné, ce que certains ont tiré une table conclusion, je ne sais pas, ça me paraît aller un peu vite en besogne, mais après, massivement, c'est des musulmans, et des crimes comme celui de Bentala, par exemple, il y a un certain nombre de gens qui se sont demandé pourquoi l'armée n'est pas intervenue tout de suite. Moi, je me suis rendu dans une cité HLM, je ne vais pas donner trop de détails, ça met un peu en danger les gens qui m'ont hébergé pendant 3 jours, mais c'est une cité dans laquelle on a égorgé, un groupe armé a égorgé toutes les jeunes filles qui ne portaient pas le voile pendant une nuit. Les militaires ne sont jamais venus, la police ne sont jamais venus. Tous les gens qui ont été tués dans cette cité, c'est tous les musulmans. Alors officiellement, c'est pas un groupe musulman. Les gens se posent la question après, ils se sont dit, bon, puisqu'on n'est jamais venu voir, bon, c'est qui? Parce que la stratégie, ça pouvait être aussi une espèce de stratégie de la terre volée, et le pouvoir algérien, les militaires algériens, pour garder le pouvoir, pour discréditer après avoir annulé le deuxième tour des élections législatives où le Front islamique du Salut l'aurait emporté, démocratiquement. Donc la stratégie, c'est de dire, bon voilà, on va essayer de bien montrer au peuple que ces gens-là sont prêts à tout. Donc on organise des massacres via soit en infiltrant le GIA, soit en envoyant soi-même des gens qui travaillent pour le service de sécurité algérien, on se déguise en barbu et on fait des trucs bien bien horribles, et on dit, ben voilà, c'est l'islamisme, c'est ça, voilà, si vous voulez cet islam-là, allez-y. Donc, moi, ma position, et ça m'est reproché par certains cercles intellectuels, ma position, c'est que il me paraît absolument farfelu de dire que l'islamisme a été créé ex nihilo par les régimes militaires pour se protéger. Pour moi, c'est une blague. L'islamisme, ça existe. Les barbus, ils existent. Je les vois même ici à Marseille. C'est pas tous des agents travaillant pour les militaires algériens. Que ça puisse être récupéré, infiltré, ça par contre, personnellement, j'en suis assez sûr. C'est une des raisons pour lesquelles on m'avait interdit de séjour, mais on m'a fait pression pour des visas pendant 2 mois là-dessus, parce que j'avais simplement dit que voilà, c'est une hypothèse tout à fait possible. Et si on pose la question, très franchement entre nous, je vous dis, moi je pense qu'il y a des cas où ça a dû se faire. Mais c'est ce que faisaient les Français aussi pour la guerre d'Algérie, c'est des vieilles techniques que les Russes ont utilisées, tout le monde utilise, particulièrement sordides. Et si les frères ont été tués de cette manière-là, c'est encore plus sordide que. C'est tout à fait possible.
Est-ce que le fait que des moines chrétiens ont été tués de la même façon que des musulmans n'est pas la chose? Il y a une certaine égalité entre les musulmans et les chrétiens aux yeux de ces assassins?
Je crois que les Algériens, dans leur sagesse, ont tiré toutes les conclusions. Je crois que la plupart des peuples de la Terre qui veulent vivre une vie humaine décente, quand on arrive à des crimes qui n'ont pas de sens, il faut entendre les gens, y compris à Marseille, qui ont été soignés par Frère Luc, qui était médecin donc à Tigrine de 1946 jusqu'à 1996. Que les gars soient musulmans ou chrétiens, ça n'y change rien. Ils ne comprennent pas pourquoi on va tuer un médecin qui soigne gratuitement tout le monde. C'est incompréhensible. Et donc, effectivement, devant de telles atrocités, musulmans et chrétiens, ça ne change rien à la question. C'est de la barbarie. Voilà. J'ai retrouvé l'autre jour un texte de Teilhard de Chardin, donc, qui est un penseur chrétien qui vivait au temps de la Deuxième Guerre mondiale. À l'époque, il était en mission en Chine, et en 1943, il disait, voilà, on est au cœur de trucs complètement horribles, les crimes nazis, cette guerre mondiale, et en même temps, cette crise, disait-il, est signe positif, parce que de tout ça, si paradoxal que ça puisse paraître, il va sortir pour le genre humain une plus grande unité. Et effectivement, elle est sortie de cette période complètement barbare, qu'on ne peut pas imputer au tribalisme africain ou à l'islam, n'est-ce pas? C'est les êtres humains au sein des Européens, traversés par cette violence. De tout ça est sorti quand même un rapprochement franco-allemand absolument incroyable, c'est quand même 3 guerres d'affilée, avec la construction européenne. L'Organisation des Nations Unies, alors le monde n'est pas parfait, il y a eu quand même des étapes importantes. On peut espérer par exemple qu'entre la France et l'Algérie arrive un point où, en dépit des souffrances de part et d'autre, on puisse se dire, bon ben voilà, qu'est-ce qu'on construit ensemble pour la suite, quoi. On a tous envie de vivre une vie décente, paisible, et qui est bonne pour chacun, quoi. Et je crois que ça a été un événement, hein, pour répondre à votre question, c'est ça a été un élément très important aussi pour les musulmans et les chrétiens. leur peau. Et de la même manière, il y a un certain nombre de chrétiens qui ont été obligés de reconnaître que, ouais, il y a des musulmans qui étaient contre ces méthodes violentes, et que, bon, face à un certain nombre d'actes barbares, les êtres humains